Nous non plus, on n'en perd pas une seule miette, c'est le SOS Musique. Nous sommes en direct, nous sommes à Revel, nous sommes au pied de la montagne noire, là où coule l'eau de la montagne noire, dans les robinets, et ça c'est bon. Salut Sabiane.
Salut Auguste.
nous sommes là pour parler musicothérapie. Nous avons deux invités, nous avons un troisième invité mais qui s'est confortablement installé, mais peut-être qu'il y aura quelque chose à dire, on ne sait pas.
Il a dit qu'il était là incognito.
En tout cas, nous avons autour de ce plateau, nous avons Laila Rice, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons Christelle Bois.
Bonjour.
Bonjour. Alors, musicothérapie, gros sujet.
Oui, énigmatique.
Énigmatique, ouais. Notamment si l'année dernière, Laila, nous nous étions déjà rencontrés sur cette radio. Et ça commençait tout juste la musicothérapie à l'école John, c'est ça?
Oui.
On en est où aujourd'hui?
Bon, on continue, ouais. C'est le plus important. Oui, on a démarré l'atelier, bon, ça marche pas mal, et bon, on essaye de faire toujours de nouvelles choses. Mais bon, l'atelier, ça marche, les enfants, ils semblent contents, et on continue dans d'autres domaines aussi.
Christelle Bois, vous travaillez donc à l'Université Jean Jaurès à Toulouse.
Oui, pas travailler étudiante, quoi.
C'est un travail. du coup, spécifiquement sur la musicothérapie, c'est quoi?
C'est un diplôme universitaire de musicothérapie. Donc okay. C'est un DU en un an. Après, on fait des stages à côté, où là, on travaille pour le coup.
Donc il y a un aspect professionnalisant dans la formation, ce qui n'est pas inintéressant, je suppose.
Tiens, si on veut entrer en musicothérapie, j'allais dire le Mirail, à Jean Jaurès, c'est quel niveau
Alors, il demandait essentiellement, là, pour ce DU, vraiment une expérience instrumentale.
Ok.
Donc, d'avoir au moins pratiqué pendant 2 ans un instrument minimum.
D'accord.
Donc, je pense qu'on a quand même beaucoup plus d'années chacun.
D'accord. On fait des grands signes à notre troisième invité qui est pas là. alors, le thème là, de cette discussion, ça va être la démocratisation de la musicothérapie. Alors, on en est où de la démocratisation de la musicothérapie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se
démocratise.
Ça se répande plus.
Je
que ça, tu vois, prêcher la bonne parole.
C'est ce que tu voulais dire. Moi, j'aimerais peut-être, pour ceux qui sont présents ici, mais aussi les gens qui nous écoutent, etc., peut-être avoir simplement une explication de ce que c'est comme pratique, quelles sont les méthodes, rapidement, je veux dire, ou en tout cas la finalité, l'objectif, qu'est-ce qu'on attend, etc., enfin, de votre discipline, en fait.
Bon, la musicothérapie, c'est pas une autre chose qu'utiliser la musicothérapie avec des finalités thérapeutiques, des stimulations cognitives. C'est prouvé, maintenant, on va l'expliquer un peu plus largement à la conférence, mais c'est prouvé qu'il y a des effets dans les cerveaux, il y a des effets dans de différentes populations, comme on veut dire les enfants avec troubles, les malades mentaux avec une maladie mentale, comme les schizophrénies, comme la bipolarité.
D'accord.
Dans les centres hospitaliers aussi, c'est très utile, hein, les unités d'oncologie, les unités ou des soins.
D'accord.
Et tout ça nous aide pas seulement à améliorer la qualité de vie, sinon vraiment il y a des effets de la musique sur le cerveau qu'on peut atteindre d'une manière plus facile que par la parole. On expliquait que la musique active tous les cerveaux en même temps.
D'accord.
Alors ça a ses avantages. Il y a des personnes qui ont mal avec la parole et avec la musique, ils peuvent s'exprimer. Il y a d'autres personnes, j'explique toujours les cas que j'avais d'un monsieur qui était aphasique, qui ne pouvait pas parler, mais il chantait parfaitement parce que,
d'accord,
comme il y a la connexion entre les deux hémisphères de cerveau, et comme le cerveau il est vraiment plastique et résilient,
oui,
alors vraiment il peut s'adapter. Et la musique c'est un des outils les plus connus pour ça.
D'accord. Il y a vraiment une finalité pour la santé,
oui,
au sens large, c'est-à-dire à la fois la cure, le soin dans la cure,
soin,
et même le développement de capacités cognitives.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
D'accord. Donc c'est... Ouais, bon, Oui.
Je fais une toute petite parenthèse pour dire qu'il y a une micro-conférence qui démarre. Tout à l'heure, on aura la micro-conférence sur la musicothérapie. conférence qui démarre sur le rapport musique et image. Voilà, donc foncez si vous ne voulez pas rater ça, ça commence. Mais nous, on continue.
D'accord.
On continue sur la musicothérapie.
Parfait. Donc du coup, par rapport à la démocratisation, puisque c'est le sujet de votre conférence de tout à l'heure, plus ou moins ou...
Bon, le sujet, c'est plutôt une introduction à la musicothérapie pour démocratiser, pour informer tout le monde. Un premier point, c'est informer, vraiment informer qu'est-ce que c'est la musicothérapie, à quoi ça sert, quels sont ses effets. Après, reconnaître le métier de musicothérapeute, que peut-être, moi je viens d'Espagne, mais en France c'est plutôt la même démarche, on commence à faire des études universitaires et tout ça. Mais bon, en Espagne, il n'y a pas un collège de musicothérapeute, on est en train de le faire. Je ne sais pas, en France, peut-être ma collègue... Mais je sais qu'en Angleterre, aux États-Unis, ça c'est un métier beaucoup plus développé et beaucoup plus reconnu dans les études universitaires.
En France, c'est encore très très méconnu comme métier. C'est vrai qu'on voit au Canada aussi, c'est très développé, ne serait-ce qu'en Belgique.
Donc on a un besoin de développement, de présenter cette discipline, ce métier et ses bénéfices en France, en Espagne aussi, si j'ai bien compris.
Oui.
Voilà. Mmh. Alors que dans les pays du Nord, c'est déjà quelque chose qui est plus installé, reconnu, et développé, institutionalisé.
Et en plus, il y a une formation beaucoup plus large là-bas. Il y a de licences en musicothérapie. Il y a vraiment des... Même si en France, c'est ce que je connais, c'est pas mal. Il y a des bons professionnels qui font ça, qui étudie ça. Et après, par exemple, je connais l'université de Nantes, il y a un département de psychiatrie qui travaille avec musicothérapie. D'accord. Avec les effets dans le cerveau humain. Et bon, la France est un pays pionnier à la musicothérapie. Et en fait, le premier congrès mondial de musicothérapie a eu lieu ici, en France, je crois qu'en 1974.
Oui, 74.
Moi, je commence à connaître tout ça ici, et ça m'étonne, ça c'est génial. Et en fait, il y a beaucoup de conscience que c'est un métier qui peut être utile. Maintenant, il faut que peut-être les institutions prennent conscience.
Il y a l'ouverture de formations spécifiques dans les universités, donc à Jean Jaurès à Toulouse, si j'ai bien compris.
C'est la toute première année.
C'est la toute première année cette année. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait aussi faire, ou quels seraient les moyens pour que le grand public connaisse mieux en fait la musicothérapie, quoi. Quelles sont vos pistes?
On commence par ça, parler à la radio, faire des conférences, on fait des ateliers, on présente aussi à niveau associatif. Il y a pas mal d'associations, je commence à voir pas mal d'associations, des fédérations. Il faut vraiment travailler en groupe et présenter ça.
Donc, il y a une fédération des musicothérapeutes.
Oui,
Fédération française, la FFM, Fédération française de musicothérapie.
D'accord.
Et c'est pas d'hier,
Et c'est pas d'hier. C'est une discipline qui a une longue histoire, enfin qui commence, 1974, c'est pas tout récent, mais qui a mis du temps à faire son trou, quoi, en fait. Vous ressentez ça ou c'est pas vrai?
Bon, moi je viens d'ailleurs, alors je viens d'une grande ville. Oui, il y a beaucoup plus d'offres. Mais on voit qu'encore, il n'y a pas une reconnaissance.
Oui, voilà, c'est ça. C'est encore très... On est encore au début, il y a encore du boulot
à faire. Musicothérapie, c'est quoi?
Voilà, c'est ça. Vous voyez, moi, c'est ce que je vous ai posé comme première question. Qu'est-ce que c'est exactement la musicothérapie?
Honnêtement, là, pour avoir fait pas mal de recherches, dès l'Antiquité, on trouve des liens entre musique, soins, santé, même par rapport à aller mieux au niveau du corps, etc. Mm-hmm.
En fait, si on trouve dans l'anthropologie, on trouve qu'on a trouvé le premier instrument, c'est une sorte de flûte. C'était beaucoup plus ancien que les premiers instruments pour cuisiner. Alors la musique fait partie de notre vie, de vie. Alors en plus, il y a des études qui disent aux enfants, avant de parler, chantons, la musique c'est son pré-langage. Alors c'est une chose qui fait partie de notre vie.
Ouais, quelque chose qu'on ressent comme une intuition, c'est ça?
Qui
commence à trouver ses fondements scientifiques et qui se développe dans le milieu des sciences.
Je pense que c'est ça en fait. C'est vraiment maintenant, on peut prouver scientifiquement que la musique, elle a des effets bénéfiques.
Sur la santé, sur le corps, sur le psychisme. C'est extraordinaire et c'est bien qu'on le découvre et qu'on le redécouvre. Est-ce que vous pouvez, mesdames, m'expliquer un petit peu quelle est votre pratique plus concrètement, c'est-à-dire quand vous recevez les enfants ou les adultes, suppose que ça peut aussi être travailler avec des adultes.
Alors moi, je travaille avec des personnes âgées.
Voilà, avec des personnes âgées, par exemple. Mais comment on va travailler avec ce médium, la musique, avec ces publics-là?
Bon, d'abord, si on trouve, par exemple, des personnes âgées, et parfois la musique, c'est les seuls langages qu'on a, les seuls moyens qu'on a pour s'approcher à eux.
D'accord.
En fait, tout le monde, on a tous une musique qui nous a accompagnés toute notre vie, non ? Et il y avait un documentaire qu'on avait partagé, un documentaire d'Art TV, toute la musique que j'ai aimée, qui parlait de précisément de ça. Une personne qui peut-être à travers la parole, ils n'ont même pas rien à faire parce qu'ils n'ont pas vraiment la conscience du temps, même son identité. Mais ils écoutent une chanson, ils peuvent la répéter. Il y a une partie de la mémoire qui n'est pas blessée. Alors on peut travailler avec ça et on peut guérir le reste.
Et vous parliez d'une personne qui était aphasique, donc qui ne parlait plus
Il pouvait pas parler.
Mais qui arrivait à communiquer
Les psychologues, les psychiatres, ils étaient étonnés parce qu'il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas vocaliser. Il avait un AVC, alors. Mais on commençait à chanter, on a chanté les chansons de sa jeunesse, et il a chanté parfaitement toutes les chansons, on a les vidéos et tout ça, et ils étaient nocturnés, mais c'est facile, bon c'est facile entre guillemets, les langages c'est pas seulement de l'hémisphère gauche du cerveau, sinon il y a partie de l'hémisphère droit qui travaille avec le langage, hein. Surtout l'intonation, l'empathie, tout ça, non ? Alors ce monsieur, il s'est rappelé très bien les chansons, alors comme il chantait, il avait la connexion entre deux cerveaux, le travail qu'il faisait pas de son côté gauche, il le faisait de son côté droit. Alors il pouvait chanter, oui, il pouvait chanter parfaitement et vocaliser.
Donc ça illustre parfaitement le phénomène de plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'une autre partie du cerveau va faire le travail qui est initialement fait ailleurs, quoi.
Oui, la neurologie, elle nous a donné beaucoup d'études des neuroplasticités qui montrent pas seulement ça, non, mais à niveau des musiques, bon, il y a plein de recherches. Bon, il y a l'axe de l'épicurie. Avec ses livres et musicophilia, c'était les dernières. Il y avait des études de psychiatrie avec la musique.
D'accord.
Au Canada, il y a les Brahms à Montréal, le département de musique. Ils étudient avec IRM, avec tout sort de...
Oui, donc contrôlé avec l'imagerie. Que ça s'allume par-ci, par-là.
Grâce à ça, on peut prouver que la musique, c'est utile. C'est pas une chose magique. Il y a des explications pour tout.
Alors, scientifique.
Oui, totalement.
Alors du coup, je reviens sur cette idée de méthode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une séance type, comment ça se passe, si on peut dire?
Tu veux parler? Bon, une séance type, normalement, je structure beaucoup les séances, parce que moi, je travaille avec des enfants handicapés. Bon, je dois dire que l'handicap, pour moi, c'est... que chaque fois que je dis handicapé, je trouve que c'est une condition. Les enfants qui ont des troubles spécifiques, mais je ne trouve pas qu'ils sont handicapés. Parce que musicalement, ils sont très...
Ils ne sont pas handicapés.
Oui, alors des enfants avec des troubles ou des adultes. Et alors, on structure très bien la séance. Le commencement avec une chanson, une musique bienvenue. Après, on déroule la séance. On fait des instruments pour travailler l'attention. Moi, parfois à la réalité, parce qu'ils ont des problèmes. Et puis, il y a la fin, une musique, une chanson, des fins qui peuvent structurer la fin, qui peuvent avancer les moments. Parce que normalement, c'est bien qu'ils ont.
C'est ritualisé.
Chaque séance,
rituel de début et de fin pour les aider à savoir s'ils sont en musicothérapie.
D'accord, on commence et on finit. Dans la CS, de
créer un cadre.
Donc, il y a cette notion. Et est-ce que vous avez la possibilité, au bout d'un an d'exercice, en tout cas à l'école jeune, de...
Non, oui, j'ai une année ici et 10 ans, 12 ans là.
Oui, c'est bien. Au bout de plusieurs années de pratique, est-ce que vous voyez des bénéfices à... C'est-à-dire que ça se développe sur le reste de la vie.
Oui. Bon, le premier enfant que j'avais, Asperger, il avait la chance de partir aux États-Unis où le musicothérapeute vient chez lui avec la mutuelle. Alors,
d'accord.
C'est différent, c'est totalement différent là, non ? Mais quand je l'avais connu, il n'avait pas la parole, il ne parlait pas, il était vraiment, il n'avait pas l'attention pour le travail parce que c'était un Asperger hyperactif. quand je suis partie là, il parlait parfaitement. C'est pas seulement grâce à la musicothérapie. Je crois que c'est un travail pluridisciplinaire. Il y a plusieurs disciplines qui peut avoir lieu, que tous ensemble, on peut faire beaucoup plus, non?
Oui.
J'avais un autre enfant qui, en principe, il ne pouvait pas parler ni échanger. Et maintenant, ils m'ont envoyé une vidéo. Lui, au théâtre, il joue le violon maintenant. Il parle assez bien.
Donc,
ouais. Ça, c'est beau. Parents aussi, qu'ils ont cru en son enfant, mais lui, il avait vraiment quelque chose avec la musique. Et maintenant, j'ai un autre enfant qui a un problème de motricité, de latéralité, mais quand il joue la musique, ça disparaît.
Donc,
ça
un disparaît enfant totalement. Qui a des problèmes moteurs dans le déplacement, etc., mais qui est capable de jouer d'un instrument sans problème, c'est ça?
Bon, ça dépend de l'enfance, avec un pas de troubles, mais on peut travailler vraiment la coordination, la motricité avec un enfant et on peut améliorer. Moi, je crois que c'est tout en conjoint. On peut aller avec l'orthophoniste, avec le psychologue, avec l'éducatrice, et en tous, dans la même direction, on peut faire beaucoup plus. Mais bien sûr, la musique aide beaucoup, parce qu'on n'est pas conscient. Il y a une petite partie de la conférence qu'on dit, vraiment, on n'est pas conscient des effets. Même si on n'est pas conscient des effets, il y a des effets.
D'accord.
Alors, ça sert pour beaucoup de cas, des troubles, de l'Alzheimer, plein de...
Et avec les personnes âgées, du coup, vous avez une expérience particulière?
Alors, oui, c'est différent déjà parce que j'ai des groupes.
Oui.
Du coup, on essaye aussi de créer une cohésion dans le groupe, de fédérer un peu la chose. Et après, c'est vrai que le côté, ça rappelle des souvenirs en fait, la musique. Donc, c'est la Madeleine de Proust, hein, typiquement. On va passer une chanson et puis d'un coup, ils vont me dire « Ah ouais, je me souviens, alors il s'est passé ça dans ma jeunesse. » Souvent, ils me parlent de la guerre. Hein. Et même d'un point de vue moteur, la musique, ça stimule les personnes âgées. Quelque chose dans le rythme qui capte la pulsation, qui souvent avec leurs pieds, même quand ils sont en fauteuil, je les vois bouger. Alors c'est léger, hein, mais je les vois bouger un peu et je suis là, bon, il y a quand même quelque chose, ils sourient. Puis ils me remercient beaucoup à la fin. Donc
ouais, c'est un peu... Enfin, vous disiez que c'est pas magique, c'est...
Non, il n'y a pas de miracle.
Il n'y a pas de miracle, mais il y a quelque chose d'un peu miraculeux dans ce que ça stimule et que ça génère immédiatement chez les gens sur le plan émotionnel, cognitif.
Nous, ce qu'on recherche, c'est un mieux-être.
Oui. Ouais,
j'ai travaillé pendant 10 ans dans une maison de retraite. En tant que musicothérapeute, je vis de tout. Je vois des gens qui se rappellent même pas de son nom, qui savaient parfaitement que j'étais la dame de la guitare et les chansons qu'on allait chanter à ce moment-là. Je vois des gens qui ont pu se rappeler du nom de ses enfants parce qu'on chantait une chanson qu'on chantonnait quand ils étaient petits. Et des gens qui ne pouvaient pas normalement bouger, qui étaient dans une chaise roulante, qui à un moment donné, on a touché son point de...
D'accord.
Et comme il avait pas vraiment un problème moteur, c'était plutôt psychologique. Déjà, ces derniers temps que j'étais là-bas en Espagne, et on avait pris l'initiative de prendre des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, mais qui étaient dans mon atelier. On allait voir la chambre des personnes qui ne pouvaient pas sortir, qui étaient toute la journée dans la chambre avec démence. Ça changeait totalement son visage, son... Ce sont des petits changements qui font une grande différence.
Et donc, du coup, il y a aussi toute la relation que vous pouvez créer. Je suppose que ça a aussi une importance.
Oui, un très haut aussi.
Le lien, pour citer les cours, hein, on parle de relation tripolaire entre le thérapeute, le patient et la musique.
Voilà. D'accord. Vous êtes médiatisé, ou c'est la musique qui médiatise, qui sait, la relation aussi aux personnes. Ok. Bah, super, Hogin, est-ce que tu as des questions?
Moi, je suis impressionné déjà par le vocabulaire, évidemment, que tu maîtrises et que je ne maîtrise pas dans le cadre de la... non, je n'ai pas plus de questions.
Des grosses bêtises.
Je suis peut-être dit des énormes bêtises. Je suis, je pense que les réponses à toutes ont été apportées. Voilà, je vous remercie en tout cas de cette intervention. Dans une minute très exactement va commencer le concert sur la petite scène. dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Laila, on vous retrouve donc tout à l'heure à 17h pour une conférence sur la musicothérapie, conférence atelier sur la musicothérapie. Et puis, bien sûr, on vous retrouve aussi à l'école John.
Oui.
Voilà, exactement. À l'école John, c'est à Revel. Et si vous voulez savoir ce qui se passe à l'école John, il se passe plein de choses. Et notamment, c'est un peu l'école John ici aussi, c'est le SOS Musique. Venez nous y retrouver. Il paraît que le soleil s'est levé, moi je le vois pas d'ici, mais il paraît que le ciel s'est dégagé. Alors c'est le moment d'imaginer une petite promenade de santé et venir jusqu'à la salle Claude Nougaro. Merci infiniment, Laila,
merci infiniment,
Christelle. Et puis on se retrouve toute l'après-midi au gré des ateliers.